Donc, on continue notre. On est dans les mystères. On avait vu le mystère de la foi, le mystère de l'Évangile. Maintenant, on regarde les mystères des Juifs et gentils dans un seul corps, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait que peut-être avant de commencer, on va avoir un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on est réunis ensemble ce soir, puis on s'attend de ta parole, de toi, Seigneur. On te demande ton aide par ton esprit de nous guider, de nous diriger afin qu'on puisse recevoir ces enseignements. On sait que l'apôtre Paul, quand il enseignait ces choses, c'était important pour lui, puis il voulait le transmettre aux églises de ce temps-là, mais aussi maintenant à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On te remercie qu'on peut lire ces écrits et tirer profit de ces choses en apprenant davantage, Seigneur, sur les choses que tu as faites, des grandes choses que tu as faites pour nous. On te remercie, notre Dieu, parce que bientôt, on va être dans ta présence pour l'éternité, mais en attendant, Seigneur, on a besoin d'avancer, d'apprendre dans ces choses. Puis on te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on avait commencé un petit peu dans l'Éphésiens, on est dans Éphésiens au chapitre 2. Et on va lire le chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 3, verset 13. Et Paul ici qui explique ou qui enseigne ici les Éphésiens par rapport à ce mystère-là. Puis on va voir le mot mystère. C'est sûr, quand on lit notre passage, on voit le mot mystère parce qu'en parlant de mystère, comme on a dit, c'est pas nécessairement des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas pu s'imaginer si le Seigneur ne les avait pas, si nous ne les avait pas révélées. Mais il nous les a révélées avec le but qu'on les comprenne puis qu'on en tire profit. Donc, on lit à partir du chapitre 2 d'Éphésiens, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Donc, il montre la différence entre ceux qui étaient circoncis et les incirconcis, c'est-à-dire tous les non-juifs. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant. Donc, la différence avec ce qu'on était avant dans l'ancienne alliance avec le peuple juif, on était hors de ce. Mais il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Que le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. Donc, on avait vu que l'Église est un nouveau concept, mais qui s'harmonise parfaitement avec les promesses de Dieu qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. C'est que l'Église était dans la pensée de Dieu, mais elle n'était pas révélée encore. Elle a été révélée, comme il dit, aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Et c'est ainsi que Paul nous fait l'explication, nous parle de ces choses-là dans cette épître-là ici, dans le passage qu'on vient de passer, de lire ensemble. Donc, la doctrine de l'Église, c'est quelque chose d'important autant que les autres doctrines de la parole de Dieu. Puis c'est ça que Paul il nous révèle ici. Donc, on pense, il y a différents points, deux points qu'on va voir ici, là. On voit que dans la pensée de Dieu, eh bien, c'était déjà là au début, avant la création du monde, Dieu avait en pensée ce mystère-là que Paul nous a révélé. Il a été révélé dans le temps. On le voit surtout même au début, dans la Genèse, quand Dieu a institué le mariage avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le mariage a été institué avant que le péché entre dans le monde, mais le mariage que Dieu a institué, une institution divine, Paul nous dit dans Éphésiens 5 que il nous parle du mariage et en même temps, il nous parle de l'union mystique de Christ avec son Église, comme lui étant l'époux. Et l'Église étant l'épouse. Donc, quand Dieu a institué le mariage, c'était pour représenter éventuellement à nous qui sommes parvenus à ce moment ici dans le temps, que l'Église, quelle relation le Seigneur Jésus-Christ avait avec son Église. C'est pour ça que c'est important le mariage, que ce soit honoré de tous, comme dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, parce que cette relation-là entre mari et femme représente pour nous, mais aussi pour les gens du dehors, ça représente quelle est la relation que Christ a avec son Église. On appelle l'union mystique de Christ avec son Église. Puis il nous en parle dans Éphésiens 5, quand il nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Puis à la fin, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Donc quand Dieu institue le mariage, on peut se référer dans la Genèse, quand Dieu institue le mariage, pour nous aider à comprendre par rapport au corps du Seigneur Jésus-Christ qui est son Église. Et on sait que la façon que Ève a été créée, au début, Dieu a créé l'homme et la femme. Ensuite, Ève a été sortie de Adam, de son côté percé. Ça nous parle aussi ici du Seigneur Jésus-Christ qui a été percé sur la croix dans la douleur. Il a pu donner cette épouse-là qui serait la sienne. Donc, elle vient de lui. Mais on voit aussi dans la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, quand on a regardé les fêtes de l'Éternel, on a vu que à la fête de la Pentecôte, il y avait deux pains qui étaient agités. Dans Lévitique 23, 17, il dit, vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, pourquoi deux pains? Sûrement que dans la fête de la Pentecôte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'eux comprenaient pourquoi deux pains. Mais nous, maintenant, qui on est parvenus à ce temps-ci dans le temps, eh bien, on sait que les deux pains ils représentent Israël et l'Église, ou les païens qui sont formés pour former un seul corps. Et c'est ce que Paul nous parle ici. Là, nous autres, on a l'explication. C'est pour ça qu'à la fête de la Pentecôte, on sait que la fête de la Pentecôte représentait le jour de la Pentecôte quand l'Esprit est venu baptiser dans un seul corps l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est un fait historique. Le baptême du Saint-Esprit, il y a des gens qui pensent qu'on peut demander le baptême du Saint-Esprit. Non, c'est un fait historique qui est arrivé dans le livre des Actes, que l'Esprit est venu. Le Seigneur avait dit d'attendre ce que le Père avait promis. Puis quand l'Esprit est venu, eh bien, c'est là que c'est la naissance de l'Église. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu a fait, c'est la naissance de l'Église qui était représentée par ces deux pains-là. Puis je crois même qu'au début, les apôtres n'avaient pas nécessairement compris cet aspect-là, que les païens s'ajouteraient à l'Église pour former un seul corps avec eux. On sait que Paul maintenant l'explique aux Éphésiens, mais dans le livre des Actes, quand c'était des Juifs, c'était des croyants juifs qui étaient à Jérusalem, puis ils ont été baptisés, mais on voit que les autres, les païens, sont entrés au même niveau que les Juifs, sont entrés dans la réalité de ce baptême-là de l'Esprit pour former un seul corps, comme Paul nous dit ici. Donc, il y avait deux pains qui représentaient les Juifs et les gentils. Donc, ça nous dit que des fois, on a cette pensée-là que Dieu avait choisi Israël, puis qu'il avait rejeté le reste des nations, mais c'est pas ça vraiment. Dieu avait choisi Israël en vue de rejoindre les nations. Puis Dieu avait toujours en vue de rejoindre les nations à travers Israël comme un peuple témoin. Mais maintenant, le peuple témoin, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis encore, Dieu est un Dieu inclusif. Dieu n'est pas exclusif. Dieu est inclusif. Il veut, quand il nous dit quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il s'est donné comme rançon pour tous. Dieu est un Dieu qui veut inclure tous les hommes dans son salut. Ceux qui ne seront pas sauvés, ce sera ceux qui auront refusé, puis qui auront surmonté tous les obstacles que Dieu a mis dans leur chemin pour les arrêter à réfléchir sur le salut que lui a pourvu. Ça n'a pas été fait en cachette. Seigneur Jésus-Christ est mort en public et qui connaît pas le fait que Christ est mort sur la croix du Calvaire au début de notre ère, puis pour nous sauver de nos péchés. Mais on va aller dans Ésaïe maintenant pour montrer que dans l'Ancien Testament, c'était vraiment en vue. Dieu, comme on dit, c'était pas nécessairement qu'ils comprenaient ces choses-là, mais nous maintenant, on retourne dans ce passage-là, puis on voit que Dieu n'avait jamais oublié les nations. Mais regardez au verset, dans Ésaïe 56, au verset 3, il dit: Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà assemblés. On sait que le Seigneur Jésus, quand il a parlé, qui était la porte des brebis, puis qui rassemblait, il était venu rassembler les brebis, puis il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là aussi, il faut que, puis ils vont former un seul troupeau. Mais on va aller dans un roi aussi. On voit ici que le Seigneur avait de la place. C'est sûr que les sacrifices ici, ça nous parle du millénium, là. C'est là que les nations vont venir avec Israël, puis ils vont offrir des sacrifices qui vont dans le millénium. Les nations vont être avec Israël. Dans 1 Roi 5, si on va dans 1 Roi 5, on voit ici quand Salomon a construit le temple à Jérusalem. Le temple, on sait que le temple est un type aussi de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous, on est devenu un temple spirituel. On n'est pas un édifice physique, mais on est un édifice spirituel, une habitation pour Dieu en esprit. Puis quand Salomon a construit le tabernacle, pas le tabernacle, mais le temple, on voit que Dieu avait en vue, même à ce moment-là, les détails sont importants pour nous montrer que Dieu avait en vue aussi les nations. Donc, dans 1 Roi 5, et on va aller au verset 13. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban. Donc, Liban, ce n'était pas Israël, c'était en dehors d'Israël. 10 000 par mois. Alternativement, ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Donc, on voit qu'il y avait de ses serviteurs qui étaient envoyés au Liban pour couper du bois, pour construire. Puis aussi, il y en avait qui taillaient des pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram qui était au Liban, et ceux d'Hiram et les Gibliens les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Donc, on voit que c'est une maison qui était bâtie avec des pierres qui provenaient d'Israël, mais aussi avec des bois qui provenaient du Liban, donc qui provenaient des nations qui n'étaient pas d'Israël. Donc, ce temple-là était construit avec des pierres, qu'on pourrait dire juives, et des bois qui étaient des païens. Donc, voyez-vous que ce temple-là, qui préfigurait vraiment le temple qu'on est maintenant, on est un temple de Dieu en esprit, eh bien, on voit que le temple-là avait des choses qui nous montrent que la maison spirituelle qu'on est maintenant est construite de juifs et païens réunis ensemble. Mais une chose qui est importante par rapport à ce mystère-là, c'est que ce n'est pas la continuité d'Israël. C'est un nouveau concept. Des fois, on mêle les choses, puis on pense que on prend ce qui était à Israël, puis on transfère à l'Église. Ceux qui transfèrent ces choses-là à l'Église, ils prennent surtout les bénédictions, puis ils ne prennent pas les malédictions. Mais si on prend un, il faut tout prendre. Mais vraiment, Israël c'est distinct. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Israël, c'est distinct de ce que Dieu fait avec l'Église maintenant. Ce n'est pas la continuité, c'est un nouveau concept. On sait que maintenant, dans la pensée de Dieu, puis dans la réalité, eh bien, Israël maintenant est sous un jugement de Dieu. Présentement, le peuple d'Israël en tant que nation est sous un jugement de Dieu. On va voir ça. Il y a le mystère de l'aveuglement d'Israël qu'on verra plus tard. Mais ils sont dans un aveuglement à cause du fait qu'ils ont rejeté leur Messie, celui qui était venu leur offrir le royaume. Et le royaume a été comme mis de côté pour un moment. Puis Dieu rassemble ici ces juifs-là avec les païens pour former son Église. Mais l'Église, elle est née, la naissance de l'Église est arrivée au jour de la Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2. Mais on voit que l'Église n'emprunte pas une gloire qui vient d'Israël. Dans la révélation de Dieu avec Israël, Dieu s'était révélé avec la loi. On sait qu'Israël, quand ils sont devenus une nation, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été dans le désert, au mont Sinaï, puis Dieu a donné la loi à Moïse à ce moment-là. Mais nous, dans le Nouveau Testament, avec l'Église, c'est la grâce qui nous sont venues par Jésus-Christ. Puis, on appelle ça le ministère de l'Esprit maintenant. Mais le ministère de l'Esprit vivifie, comme dans Actes 2, 41, là, comparé au ministère dans Actes 2, 41, quand Pierre a prêché la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a 3 000 âmes qui ont été sauvées, qui ont été ajoutées à l'Église à ce moment-là. Mais quand le ministère de la lettre, que Paul, il parle du ministère de la lettre, on verra, il dit, le ministère de la lettre, il dit qu'il tue. Puis, le ministère de la lettre, c'est quoi? Ben, c'est quand la loi est venue, eh bien, en Exode 32, quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi avec les 10 commandements de Dieu, eh bien, Dieu lui a dit de se hâter de descendre parce qu'à ce moment-là, pendant qu'il recevait la loi, le peuple avait brisé la loi. Déjà brisé la loi en faisant le veau d'or, puis en adorant un faux Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils se sont fait un veau d'or, mais déjà, ils avaient brisé la loi. Puis, il y en a 3 000 qui sont morts. Fait qu'on voit le contraste entre le ministère de la lettre qui tue, Paul nous parle du ministère de la lettre qui tue, et le ministère de l'Esprit qui vivifie. Donc, on a le contraste entre quand la loi a été donnée, 3 000 personnes sont mortes. Quand la grâce est venue, eh bien, 3 000 personnes ont été sauvées. C'est tout un contraste quand on parle de ça. Puis dans 2 Corinthiens, si on va dans 2 Corinthiens au chapitre 3, Paul nous parle de cela. C'est de là que je prends ces références-là. 2 Corinthiens 3, au verset 6 à 11. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, donc il se réfère à la loi, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, donc il y avait une gloire, puis on sait que c'était glorieux parce que la montagne était toute en feu, il y avait des coups de tonnerre, il y avait des éclairs, puis les gens ont eu peur, ils n'osaient pas s'approcher, puis ils ne devaient pas s'approcher de la montagne parce qu'ils auraient été frappés de mort. Donc il dit, si bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit n'est-il pas plus glorieux? Donc en disant ici plus glorieux, c'est qu'il démontre que c'est une gloire plus grande. Il dit, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Voyez-vous, ici, Paul démontre que c'est une plus grande gloire. Oui, il y avait une gloire avec la loi qui est venue, mais il y avait une gloire qui surpasse, mais qui ne vient pas du même endroit. On sait que le ministère de la lettre, et quand la loi est venue, ben, c'était le ministère de la lettre. Le but, c'était que les gens puissent reconnaître leur perdition, qu'ils puissent reconnaître leur péché, parce que sans la loi, il n'y a pas de péché. Mais quand la loi est venue, eh bien, le péché a été révélé. Puis c'est l'expérience que Paul nous parle dans Romains 7 quand il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc la loi avait pour but de nous emmener, comme il dit dans Galates aussi, la loi avait pour but de nous emmener à réaliser notre condition de pécheur perdu. Donc en réalisant cette condition de pécheur perdu, ça nous pousse à aller vers Christ. Et Paul dit que c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, la loi avait pour but de nous faire connaître notre besoin d'un rédempteur, d'un sauveur, mais le ministère de l'Esprit nous présente ce sauveur-là pour qu'on puisse le recevoir puis être sauvé. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la même gloire qu'Israël, ce n'est pas une continuité d'Israël, c'est une nouvelle chose que le Seigneur nous a révélée. C'est pour ça que c'est un mystère qui nous a été révélé. Donc, Dieu a mis de côté pour un temps Israël, mais il va y revenir. Puis encore là, il y a des gens qui nous disent que c'est fini avec Israël, Dieu les a rejetés. Puis maintenant, ce qui était pour Israël avant est devenu pour l'Église. Non, c'est des choses séparées. Eux, c'est leur royaume. Nous, c'est le ciel. C'est la présence de Dieu pour l'éternité, nos péchés pardonnés. Mais si on va dans Romains 11 pour montrer. Puis ceux qui disent que Dieu a fini avec Israël, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec Romain, parce que Romain est très clair sur ces choses-là. Puis on voit dans Romains 11, les versets 25 à 29, ce serait que si Dieu avait rejeté son peuple, ce serait en fait dire que Dieu n'a pas été capable d'accomplir ses promesses. Puisque quand Dieu fait des promesses, là, ça serait même ça nous amènerait à douter de la promesse de Dieu quand le Seigneur Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, on peut se fier à ces promesses-là, autant qu'Israël peut se fier aux promesses que Dieu leur a faites. Donc, dans Romains 11, les versets 25 à 29, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc, on a encore le mot mystère ici qu'on va voir plus tard. Et est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël, remarquez bien, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Donc, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. C'est pas l'Église, ça, c'est Jacob, c'est le peuple d'Israël. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Puis, remarquez bien le verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, c'est irrévocable. Dieu a fait des promesses à Abraham et il va les accomplir pour son peuple terrestre, Israël. On sait que pour Abraham, il y avait des promesses qui étaient pour son peuple terrestre, il y avait des promesses pour son peuple céleste. Nous, on est le peuple céleste. On est, comme il dit dans Abraham, on est dans Galate, c'est-à-dire, on est des enfants d'Abraham en ayant la foi d'Abraham. On est des enfants spirituels d'Abraham, mais il reste qu'Abraham a des enfants selon la chair. Puis ces enfants-là, selon la chair, Dieu a fait des promesses qu'il va exécuter parfaitement, parce que ça ne s'est jamais accompli en totalité, ce que Dieu avait promis à Israël. Mais ça va, quand Dieu l'a dit, on peut s'y fier, les promesses sont irrévocables. Mais il reste quand même que par rapport au peuple d'Israël, en tant qu'individu, Israël ont autant accès à ce corps-là du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'individu, on parle ici, c'est en tant qu'individu, autant que les païens peuvent entrer par la foi dans cette église-là, dans ce corps du Seigneur Jésus-Christ-là, que Paul parle entre juifs et gentils, qui forment un seul corps, eh bien, Israël peuvent autant que nous entrer dans ce corps-là par la même façon que nous, parce qu'on sait que même au début de l'Église, c'était des Juifs, c'était des gens d'Israël, mais les païens se sont ajoutés par la suite. Regardez dans 2, Éphésiens 2, versets 14 à 18. Car il est notre paix, lui qui des deux, Israël et les païens, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait une séparation avant Israël, il y avait un mur de séparation. Il était circoncis dans la chair pour être distant des autres nations qu'on appelait les incirconcis. Mais dit, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Donc, l'un et l'autre, c'est les Juifs et les païens qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, ça c'est les païens, et la paix à ceux qui étaient près, ça c'est Israël. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Voyez-vous, c'est l'esprit, le baptême, c'est l'esprit qui a fait des deux un seul, qui a fait naître l'Église, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais les Juifs, ils peuvent entrer de la même façon, puis l'Église a commencé avec les Juifs, mais ils ne doivent pas se croire supérieurs ou se placer au-dessus des païens. C'est très important. Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas de distinction dans l'Église. Ça, c'est très, très important. On voit que Pierre, quand il est allé, c'était une idée qui, pour lui, était étrange, qui pouvait aller manger avec des incirconcis, avec des gens qui n'étaient pas sous la loi. Mais Dieu lui a montré de ne regarder aucun homme comme impur, puis d'aller avec la vision de la nappe qui est descendue avec les animaux impurs qui représentent les païens. Eh bien, Dieu a dit, Pierre, tue puis mange. Puis il a dit, non, il n'y a jamais rien de souillé qui est entré dans ma bouche. Puis il a dit, ce que j'ai déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Puis là, c'est Dieu lui montrait par là. Puis Pierre l'a dit lui-même. Dieu lui avait montré à ne regarder aucun homme, ce qu'il a dit à Corneille quand il l'a rencontré, à ne regarder aucun homme comme impur. Mais ceux qui craignent l'Éternel, eh bien, le Seigneur, il se tourne vers eux autres. Puis il a tout expliqué ça aux Juifs, aux circoncis qui étaient des croyants, des gens qui faisaient partie de l'Église, mais qui étaient des Juifs. Ils ne comprenaient pas non plus, mais Pierre leur a dit, l'enseignement qu'on a ici de Paul dans Éphésiens est venu par après. Parce qu'à ce moment-là, Paul, il n'était pas encore, il était sauvé juste avant Corneille, mais il n'était pas encore l'apôtre Paul avec la révélation qu'il nous donne dans le Nouveau Testament. Donc, Pierre devait changer sa façon de voir les païens qui entraient dans l'Église. Il devait les voir sur le même pied d'égalité que les Juifs. C'est le baptême du Saint-Esprit qui enlève toutes ces différences-là. Là, on est dans Galates 3, dans Galates au chapitre 3 et au verset 26 à 29, qui dit ici, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ ou immergés ou plongés en Christ, il n'y a plus ni juif, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et vous, la distinction est enlevée complètement dans l'Église. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, le baptême du Saint-Esprit a enlevé toutes ces différences-là qui différenciaient entre les Juifs et les Gentils. Ça, c'est dans l'Église. C'est sûr qu'on a encore les Juifs, puis on a les nations. Mais dans l'Église, on devient un. Puis, vous savez, quand j'étais en Israël, on était à Nazareth, puis il y avait une femme, là, c'était une sœur, une chrétienne, qui était là, puis c'était évident qu'elle était arabe. Puis il y en a qui ils ont dit, c'est parce que le village de Nazareth, c'est des chrétiens qui ont ça. Puis quand on est arrivé, elle nous disait, bienvenue mes frères, venez, puis elle nous donnait du pain pita pour manger. Puis il y a quelqu'un qui a dit, il dit, oh, il dit, vous êtes arabe? Elle dit, oui, comme elle a fait ça, comme étant surprise. Là. Il dit, puis vous avez choisi de vivre avec les Juifs. Puis elle dit, elle a regardé sérieusement, puis elle dit, ça ne fait plus aucune différence en Christ. J'ai tellement aimé ça, sa réponse, là. Elle avait compris vraiment que ça ne dérange plus dans l'Église. Juifs et gentils, on est sur le même pied d'égalité. Un n'est pas plus important que l'autre. On est le Seigneur, on a le même accès par le même esprit. On a été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, puis on ne doit plus voir de différence. Elle n'avait pas besoin de nier ses origines. C'est pas grave, ça, que ça ne dérange plus, parce qu'en Christ, on est un. Ça, c'est important de comprendre ça, même les autres aussi. Faut on dit qu'il y a des Juifs messianiques, mais les Juifs messianiques là, qui ont reçu Jésus-Christ, ils font partie de l'Église de la même façon que nous autres. Puis c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui commencent à vouloir garder la loi, c'est comme se replacer sous la loi. Là. Non, 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 non. On n'a pas besoin d'être sous la loi. C'est différent complètement. C'est une nouvelle relation qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ. On va comparer avec Romains 10, 11 à 12. Romains 10, versets 11 à 12. Il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Quand on parle du grec dans la Bible, c'est les non-juifs. Il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ça enlève toutes les différences. Aussi, dans 1 Corinthiens, si on va dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 13, 1 Corinthiens 12, et versets 12 à 13, voyez-vous, c'est important dans son enseignement. Paul, encore ici, il parle du corps. Il dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, Paul, en donnant son enseignement ici sur le corps, c'est important qu'on voit que dans le corps, il y a différents membres, mais on est tous un. Il y a une unité dans le corps qui est faite par l'Esprit de Dieu, puis faut jamais oublier ça. Que dans l'Église, il n'y a pas de distinction, que ce soit des Juifs ou des païens. Paul le montre ici dans Éphésiens, on est devenus un seul corps. Puis il y a aucune différence. Le mur de séparation, l'inimitié qui était entre les deux a été aboli par la croix du Seigneur Jésus-Christ, parce que comme eux avaient besoin d'être pardonnés pour leurs péchés, nous aussi on avait besoin d'être pardonnés pour nos péchés, puis on a reçu le même salut sur la même base. Dieu a inclus tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Mais on voit maintenant qu'il y a trois représentations de ce mystère-là de l'Église ici dans l'enseignement de Paul. Il y a trois représentations de l'Église. Premièrement, c'est un édifice. Il le compare à un édifice. Il le compare à un corps. Il le compare à une épouse. Dans Éphésiens 2, 19 à 22, un édifice, vous savez ce qui est important pour un édifice? C'est un fondement. Puis, cet édifice-là, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, a un fondement. Ce fondement-là, c'est lui qui en est le fondement. Dans Éphésiens 2, au verset 19 à 22, il dit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, donc un édifice, hein, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, on est une habitation, on est un édifice, comme Salomon a bâti un temple. Ben, nous aussi, on est un édifice comme ça, dont lui est le fondement. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 16, 18: Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'était quoi le roc? C'était pas Pierre. C'était la déclaration de Pierre: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, lui, il est le fondement de cet édifice-là. Un édifice a une bonne fondation, puis cette fondation-là est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il parle aussi du Seigneur Jésus, comme on a vu, de l'Église comme étant le corps. Mais ce qui est important pour un corps, c'est d'avoir une tête. Puis le Seigneur Jésus en est la tête. Donc, on voit la relation. L'édifice, il en est le fondement. Le corps, il en est la tête. Dans Éphésiens 1, au verset 22 à 23, il dit: Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on est le corps, lui, il en est la tête. 1 Corinthiens 12 aussi, on voit dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27. 1 Corinthiens 12, quand il parle de l'enseignement du corps, les différents membres du corps, 1 Corinthiens 12, il dit: Car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, on voit, c'est Christ qui en est la tête. Puis, regardez au verset 27, vous êtes le corps de, au verset 27, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, on a le corps avec la tête qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 12 aussi, on voit ce même enseignement-là. Puis, dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 18, il nous dit ici: Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, deuxième illustration de l'Église, c'est un corps dont lui est la tête. Mais dans la troisième façon qu'il décrit cette Église-là, l'image qu'il prend pour décrire cette église-là, c'est une épouse qu'on voit dans Éphésiens 5, au verset 25 à 32. Il dit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Voyez-vous, il parle ici du Seigneur Jésus, son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, de reste. Il dit après ça: Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, l'Église est une épouse. Lui, il est l'époux de cette Église-là. Donc, Christ s'est placé dans une relation de dépendance avec son Église. Mais Que serait un édifice sans fondement? Le Seigneur a dit, hein, le fou sur le sable a bâti sa maison. Quand la tempête est venue, bien, la maison s'est écroulée parce qu'il n'y avait pas un bon fondement. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Puis la tempête est venue, mais la maison a demeuré ferme parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, qu'est-ce qu'un édifice sans fondement? Puis, qu'est-ce qu'un corps sans la tête, sans une tête? Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'une épouse sans son épouse? Donc, c'est une relation tellement intime que on peut pas faire l'un sans l'autre. Le Seigneur, il s'est mis dans cette relation-là avec nous, comme étant son corps. Donc, c'est vraiment important. Mais on voit que il y a trois cercles dans lesquels le Seigneur a révélé ce mystère-là. Trois cercles dans lesquels le mystère fut révélé. Premièrement, dans Éphésiens chapitre 3, au verset 5, il dit, au verset 5, il dit, un peu, non, je suis rendu dans chapitre 5, chapitre 3, verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voyez-vous, ce mystère-là, premièrement, il a été révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ par l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas été manifesté auparavant, mais là, la révélation est venue dans les prophètes et les apôtres que le Seigneur a donné. Ensuite de ça, il a été révélé aux païens, à tous les hommes, puis aux saints dans les églises locales. Dans Éphésiens 3, au verset 8, il nous dit, attendez, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, on voit ici que le mystère qui avait été révélé aux apôtres et aux prophètes, eux avaient comme mandat de le révéler maintenant aux païens et aussi ceux de l'Église locale aussi, dans les églises locales, de leur faire comprendre ces choses-là. Puis ensuite, la troisième, c'est dans aux dominations et les autorités dans les lieux célestes. Donc, le mystère est révélé aux saints apôtres et prophètes du Christ, aux païens et ceux qui sont dans l'Église, mais aussi aux dominations et les autorités dans les lieux célestes. Voyez-vous au verset 10 du chapitre 3, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, voyez-vous, ce mystère-là, il est révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ, mais il est aussi révélé aux païens, puis comme nous, parce que l'enseignement que Paul donne ici, c'est des chrétiens, mais des chrétiens qui sont païens. Il leur donne cette révélation-là, de ce mystère-là, puis aussi par l'Église. Mais l'Église peut démontrer maintenant aux dominations et les autorités dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a quatre idées principales qui ressortent de l'enseignement du corps. Donc, l'enseignement du corps qui est donné ici, c'est que le corps, il y a la souveraineté dans le corps. La souveraineté, parce que dans Éphésiens 1, 22, 23, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. C'est le Seigneur Jésus qui est la tête de cette Église-là. Donc, c'est lui qui est souverain sur le corps. Vous savez, dans notre corps, c'est qui prend la décision? C'est la tête. La tête conduit le reste du corps. Puis le corps est assujetti. Le corps est soumis à la tête qui donne les instructions pour fonctionner. Mais aussi, dans ce corps-là, il y a une unité qu'on voit dans Éphésiens 4, à partir du verset 3. On parle de l'unité de l'esprit. Donc, une unité de l'esprit, puis dans les versets 4 à 6, on voit qu'il y a sept aspects de cette unité-là. Un seul corps, donc il n'y a pas deux corps, il y a un seul corps. Puis on voit que dans un sens, il y a des gens qui pensent à plusieurs églises, mais il y a une église. On parle de l'église universelle. Un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance. Toutes ces choses-là, on sait qu'on ne peut pas jouer avec ces choses-là. Il y a juste un corps, il y a un esprit. Il y a une espérance, puis un seul Seigneur, une seule foi, la doctrine qu'on a vue, le mystère de la foi, un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit qui a formé l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous et parmi tous. Donc, ici, c'est une unité que l'homme ne peut pas toucher. Cette unité-là, on sait que c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a fait cette unité-là. Puis c'est un, on voit l'unité qui représente l'unité de Dieu, qui est un Dieu trinitaire. Des gens qui ont des problèmes avec la Trinité. Ils disent, oh, ce serait trois dieux. Non, c'est un seul Dieu dans une harmonie en trois personnes tellement harmonisées qu'ils sont un, qu'ils forment seulement un. On voit ici un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Donc ça, c'est, il parle de l'unité de la foi. Hein? Ça, c'est important. Mais un corps, il y a quelque chose d'important à comprendre d'un corps, c'est que quand un petit bébé vient au monde, là, ben, il faut qu'il grandisse. S'il ne grandit pas, là, ben, on s'alarme. S'il ne grandit pas, puis il n'apprend pas, ça, il vérifie maintenant aujourd'hui, si un enfant ne fait pas les progrès qu'il devrait faire, là, ben, à tel âge, il faut qu'il soit capable de se traîner. À tel âge, ma femme a dit ça, là, notre petit-fils, il ne se traînait pas encore. Fait qu'elle l'a gardé un après-midi, puis elle lui a montré comment se traîner. Il mettait des jouets juste en avant de lui pour qu'il ne puisse pas les rejoindre sans se traîner. Fait qu'il a commencé à se traîner. Après que ça, il se traînait. Donc, on veut voir une progression, on veut voir une maturité. Puis c'est ça que Paul, en enseignant dans les églises, il voulait les faire grandir, il voulait les amener à une maturité en Jésus-Christ. C'est important qu'on puisse, on ne soit pas des bébés, là. Puis dans l'Épître aux Hébreux, il dit, je n'ai pas pu vous enseigner, donner la viande, la nourriture solide, parce que vous êtes encore comme des bébés, vous êtes encore comme des enfants, vous n'êtes pas capable de supporter la nourriture solide. Donc, on s'attend d'un le corps du Seigneur Jésus-Christ aussi qui parvienne à une maturité. Puis Paul, il s'est donné entièrement, il s'est dépensé corps et âme pour que ces églises-là puissent grandir, venir à maturité, puis pour le corps du Seigneur Jésus-Christ en général, qui est l'Église universelle, puis on sait par ses écrits, par son service, par tout le travail qu'il a fait, c'était en vue de présenter à Christ des hommes devenus adultes, matures en Christ. Mais il y a une autre chose qui est importante dans le corps, c'est la destinée de ce corps-là. Vous savez, quand il y a un but là-dedans, ce Seigneur a fait ces choses-là, il y a un but. C'est quoi le but? Ben, c'est de présenter, comme on l'a lu dans Éphésiens 5, afin de se présenter cette Église-là devenue parfaite en Christ, sans tache ni ride ni rien de semblable, une Église parfaite qui est parvenue à maturité. Et on sait que cette maturité-là, elle va être parfaitement accomplie au retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en un instant, d'un clin d'œil, on va être transformé. Puis on va revêtir l'incorruptibilité, on va revêtir l'immortalité, on va être prêt, on va être comme on doit être pour l'éternité. Mais la destinée de ce corps-là, maintenant, Éphésiens 5, on voit qu'il y a les trois temps du salut qu'on a déjà mentionné, les trois temps du salut passés au verset 25 qui dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ça, c'est au passé. Il s'est donné pour nous sauver de la punition du péché, c'est-à-dire l'étang de feu, le jugement éternel. Mais dans le présent, voyez-vous, au verset 26, qu'est-ce qu'il fait? Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, qui est basée sur son œuvre accomplie à l'œuvre du calvaire, à la croix du calvaire aussi. Mais dans le présent, cette œuvre-là, par sa parole, il lave et comme il dit ici, afin de la sanctifier, la mettre à part, la séparer pour lui-même, la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il utilise la parole avec son esprit pour la sanctifier, la mettre à part pour lui-même, la laver par l'eau de la parole. Puis au verset 27, c'est le futur, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc on a ici les trois temps du salut. Puis le ministère de Paul, là, c'était d'instruire les païens. Il travaillait à ça, là, c'était pour qu'il soit pleinement en possession de ce que le Christ glorifié et Dieu avait prévu pour eux. Paul, là, il a tout mis son effort, puis nous autres aussi, on devrait faire la même chose. On est tous à l'œuvre. Ce qu'on a reçu, on doit le transmettre. Paul l'avait reçu, il le transmettait aussi. Pourquoi? Mais c'était pour faire grandir, pour faire maturer l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis pourquoi? Puis en faisant cela, qu'est-ce que ça fait? eh bien, c'est Christ qui est glorifié là-dedans. Ben oui, parce que c'est la preuve de l'efficacité de son sacrifice qu'il a accompli à la croix du Calvaire. L'œuvre que le Seigneur Jésus est venu commencer sur la terre, elle va se poursuivre, puis elle va être prête pour l'être. Quand le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, là, il va avoir une Église. Il va avoir son Église. Il verra le travail de son âme et sera satisfait. Mais en faisant cela, Paul avait en vue quoi? C'était la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le chapitre 3 de Éphésiens, les versets 13, Éphésiens 3, 13 à 21, il dit ici: Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, voyez-vous, Paul, c'était son effort ultime. Puis ensuite, il dit au verset 20, Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, la conclusion, verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Mais Paul, il ne se lassait pas de faire ces choses-là. Il s'est donné corps et âme pour accomplir cette tâche-là qui lui avait été donnée. Puis même, il disait que c'était une grâce qui lui avait été faite de pouvoir être utilisé comme un ministre de l'Évangile pour le Seigneur Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Puis il accomplit ça pour à la gloire du Seigneur Jésus, à la gloire de Dieu le Père, pour montrer l'efficacité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui peut sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Donc, je m'arrête là, mais je vous donne la possibilité de pouvoir prendre votre micro puis de faire avoir des questions ou des commentaires. On invite aussi les commentaires.
Peut-être un petit commentaire.
OK.
J'ai trouvé ça bien quand on te lit dans Éphésiens chapitre 5, là,
Oui.
les versets 25, 26, 27. Je ne m'étais jamais arrêté à ça, que ces trois versets qui représentent le plan du salut. C'est vraiment bien. Le commentaire, c'est quand je suis devenu chrétien, là, le livre d'Éphésiens. C'est le livre qui m'a le plus transformé. Je voyais la théorie puis la pratique.
Ouais.
Quand on enseigne la mécanique, comme moi, mettons, on enseigne la théorie, puis après on met les étudiants en pratique. Puis je voyais là vraiment pour moi là la théorie, puis comment mettre la parole de Dieu en pratique. Pour moi, c'était Éphésiens. Alors ce livre-là, je l'ai feuilleté, l'ai refeuilleté, et encore maintenant. Vois-tu ce soir encore, je suis toujours impressionné. Seigneur est bon, Seigneur est grand.
Ah oui. C'est tout un enseignement.
Une question, Gérald, c'est Gilbert Tal.
Oui.
Considérant que les noces de l'agneau, c'est un événement futur, ça veut-tu dire qu'aujourd'hui, on est seulement fiancé avec Jésus-Christ ou on est quand même son épouse?
Oui, c'est ça. Ouais. On voit que Marie, quand elle était, Joseph était engagé envers elle, puis on parle de son épouse. Donc, c'est comme si elle était l'épouse, mais la consommation du mariage n'était pas encore arrivée. C'est ça qu'on attend, nous aussi. On est l'épouse de Dieu. Parce que dans les fiançailles, c'était quand tu étais engagé, c'était très, très sérieux. Parce qu'on voit que même quand Joseph, quand il a su qu'elle était enceinte, avant de savoir que c'était par le Saint-Esprit, il s'était proposé de rompre avec elle, puis il y avait un terrain pour le divorce à ce moment-là. Il parle même comme d'un divorce, mais ils n'étaient pas encore venus ensemble. Mais il s'était proposé de la répudier parce que, à cause qu'il y avait la preuve qu'elle avait été infidèle, sauf qu'elle n'avait pas été infidèle. Donc, on voit que les fiançailles, c'était, puis comme Christ il est fiancé à nous, eh bien, c'est une promesse sûre qu'il va accomplir. Mais c'est sûr qu'on a les noces de l'agneau.
Oui.
On va être unis à lui. Ouais. Parce que
Merci.
souvent, il y a ce qui est en position, puis en pratique. Hein. Parce qu'en position, maintenant, on est l'épouse de Christ. Mais un jour, dans la pratique, on va
OK.
être unis à lui, aux noces de l'agneau.
Merci.
OK, comme il semble plus avoir de questions, eh bien, on pourra peut-être terminer avec un mot de prière. Puis s'il y en a d'autres qui ont des questions par la suite, on pourra les regarder ensemble. Mais on peut terminer par un mot de prière maintenant. Ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour les choses grandes que tu nous as révélées dans ta parole, Seigneur. On veut les garder dans nos cœurs, un peu comme Marie qui entendait les choses en rapport avec son fils qu'elle avait donné naissance, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous, on veut repasser ces choses-là aussi dans nos cœurs, Seigneur, puis les apprécier. Quelles grandes choses tu as fait pour nous. Combien c'est merveilleux, notre Dieu. On te remercie. Paul était vraiment excité d'avoir reçu ces révélations, puis il était excité aussi de les transmettre. Puis nous aussi, Seigneur, on veut les recevoir et les transmettre pour la gloire de ton nom, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.